De se sentir un peu responsable de pas mal de choses. Donc, on a balayé assez vite. Il reste peut-être un tout petit peu de temps pour les questions,
on ou pas. On n'avait pas prévu de questions parce qu'on va ouvrir énormément si on lance des questions. Je connais l'appétence de tout le monde pour ces choses-là. Ce que je vous propose, pour rester dans les temps, parce que je sais que certains ont des trains et voilà, c'est que vous restez après à 17h, vous serez là. Donc il peut y avoir des questions en aparté. Pour nous, c'était important d'ouvrir sur ce champ-là pour que vous voyez l'importance du lien et comment ça s'est monté. Je sais que c'est un peu frustrant de ne pas ouvrir sur des questions, mais pour des raisons de timing, on va en rester là. Et vous pouvez les solliciter juste après.
Merci.
Et vraiment, merci beaucoup. Je remets le dernier diaporama et je suis... on va passer à la dernière séquence. Je vous remercie pour votre patience. C'est un peu dense, voilà, mais on avait toutes ces choses-là à vous dire. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de mobilisation au niveau des équipes. Dernière séquence sur la généralisation du dispositif. Alors, quelques mots sur les étapes pour cette généralisation. On a eu un comité d'évaluation qui a acté l'intérêt du programme et qui a dit que ce programme répondait aux besoins des personnes ciblées par la recherche. Il y a une réunion interministérielle en juillet 2016, dématérialisée, c'est fait par mail, voilà, qui a acté ce qui avait déjà été acté dans un premier temps en 2015, c'est-à-dire l'intérêt du dispositif, qui a donc souhaité qu'il y ait une pérennisation des 4 sites existants dès le 1er janvier 2017, et puis qu'on travaille à un cadre juridique pour donner un statut à ce dispositif et qu'on puisse avoir des financements à la fois sur le volet sécurité sociale et sur le volet logement dans le cadre du BOP 177. L'ARIM a aussi acté donc la création de 16 nouveaux sites d'ici à 2022. Et puis le maintien, ça a été dit ce matin en préambule par Sylvain Mathieu, d'un poste de coordination nationale pour le suivi de ce déploiement. Et vous avez compris que tout au long de la journée, on a insisté sur la nécessité d'être dans le modèle et que c'est ce qu'on... Voilà, Monsieur Éric Latimer l'a précisé aussi, hein, le modèle, ce n'est pas pour le modèle, mais parce qu'on a montré qu'il y avait des liens entre la positivité des résultats et le fait de suivre ce modèle. Donc le décret est paru le 28 décembre 2016 qui crée donc ce nouveau dispositif. Il rentre dans une grande case qui s'appelle les appartements de coordination thérapeutique parce qu'on fait bien de l'appartement, de la coordination et de la thérapeutique. Et donc il rentre dans le code de l'action sociale et des familles et il faudra qu'il remplisse les diverses obligations en termes d'évaluation interne, externe, de droit des personnes comme tous les autres établissements. Alors, les points saillants du décret, bon, vous l'avez peut-être tous lu, le décret, j'insisterai sur quelques points, c'est la spécificité du public, on l'a dit, hein, redit, certes, le chez-soi d'abord, ça pourrait finalement être pour tout le monde, parce que le logement, c'est un droit, et donc, tout le monde peut être à droit au logement, mais en même temps, le logement et l'accompagnement, la hauteur d'accompagnement qu'on propose dans le chez-soi est réservée à des gens qui ont nécessité d'avoir cette hauteur d'accompagnement, donc le public. Et puis, on n'est pas sur de l'hébergement comme dans les ACT classiques, mais on est bien sur du logement. La deuxième chose, c'est que c'est un accès direct au logement, donc des gens qui peuvent être à la rue et qui rentrent directement au logement sans aucune condition de traitement ni d'arrêt des consommations. Et le fait que les gens ne sont pas du tout dans l'obligation, une fois qu'ils sont rentrés, de suivre des traitements. Donc on est là vraiment, Monsieur Benoît Vallée l'a précisé, sur le logement comme déterminant de la santé. Et ça, c'est un point qui est assez novateur sur ce décret. L'orientation se fait par des structures de première ligne avec un avis sur la question, évidemment, du diagnostic, même si, dans un second temps, on ne demande pas aux gens de se traiter, mais c'est la clé d'entrée, on va dire, voilà. On a la création d'un groupement de coordination sociale et médico-sociale, ad hoc, c'est-à-dire qu'il n'est créé que pour ce dispositif. Là, ça a été vraiment pour maintenir cette notion de pluridisciplinarité dans la gestion et aussi avoir l'implication de représentants. Alors, j'ai mis d'usagers, mais bon, vous l'avez compris, nous, on parle de locataires. L'équipe est pluridisciplinaire. Elle doit avoir en son sein des médiateurs de santé pair. Comme il a été précisé tout à l'heure, c'est pour 100 personnes. Et puis, il y aura obligation d'avoir, certes, une évaluation d'activité, mais aussi un suivi type cohorte. C'est-à-dire, on veut maintenir ce suivi pour voir si, ben, finalement, ça marche en vraie vie. Et donc ce maintien de coordination nationale. Alors là, c'est un petit peu plus dense, mais j'ai mis les différentes structures qui doivent être présentes dans ce groupement social ou médico-social. Il doit y avoir un établissement de santé qui assure des soins psychiatriques. Il doit y avoir une structure qui gère de l'intermédiation locative. Il doit y avoir un centre de soins et d'accompagnement en addictologie, un XAPA. Et il doit y avoir des conventions avec un établissement de soins somatiques, avec une structure qui travaille pour la lutte contre les exclusions et avec des représentants des usagers, à la fois sur le volet santé mentale et sur le volet des personnes qui sont dépourvues de logement. Au niveau de la pérennisation des sites actuels, à compter du 1er janvier, les établissements actuels, les sites actuels, sont réputés autorisés et ils ont donc un an pour déposer le dossier auprès de l'ARS. Donc, on ne lance pas des appels à projets sur les 4 sites existants et l'ARS dispose d'un délai de 6 mois pour les autoriser définitivement. Ils doivent donc créer leur GCSMS. Ils doivent intégrer de nouveaux locataires puisqu'il y a des places. Jusqu'à présent, on n'avait pas intégré de nouveaux locataires parce qu'on attendait d'être sûr d'avoir le décret de pérennisation. Et donc, dans ce cadre-là, on a créé une commission sur chacun des sites. C'est en cours de constitution pour orienter les personnes. Et dans cette commission, on inclut le 115, parce qu'il est important qu'il y ait cette vision sur le territoire, les opérateurs et puis les équipes d'orientation. Les équipes chez soi n'auront pas la main sur les orientations des personnes. Voilà. On veut garder cette idée qu'on ne sélectionne pas en tant qu'équipe les personnes, sur cette idée que finalement, on n'a pas nous à donner, enfin nous en tant qu'équipe, à donner notre avis. Et donc les gens sont orientés selon des critères d'avoir passé du temps à la rue, d'avoir eu un diagnostic et puis d'avoir des besoins élevés. Donc on reste exactement sur les mêmes critères. Le chez-soi ne fera pas tout. Sur les sites, évidemment, il n'y a que 100 places. Et ça veut dire que, bien sûr, tout autour, il doit y avoir d'autres choses qui se mettent en place pour les personnes qui ne rentreront pas. Et l'important, on l'a dit et redit, c'est l'inscription dans le territoire. Et ce travail est accompagné, bien sûr, par les agences régionales de santé et les services de l'État. Alors, pour les nouveaux dispositifs, il y a des gens dans la salle qui souhaitent ouvrir de nouveaux dispositifs ou démarrer ce type de travail. Donc, on aura finalisé le cahier des charges. Je vous l'ai dit, on est sur un travail qui est très participatif. Donc, il sera finalisé en juin 2017. Le comité de pilotage qu'on avait mis en place pour l'expérimentation devient un comité de suivi. Il y a au sein de ce comité de pilotage un certain nombre de têtes de réseau, de fédérations qui auront aussi à se prononcer sur ce travail de cahier des charges. Pour l'instant, on est encore sur l'intra, je dirais. On va produire d'ici la fin 2017 un guide de mise en œuvre et d'implantation, et puis un guide de suivi et d'évaluation. Dans ce cadre-là, on a une convention avec l'ANESM pour intégrer dès le démarrage tous les outils obligatoires qu'on a dans la loi 2002. Donc, ce comité de suivi national qui va valider le cahier des charges en juin 2017. Et puis, dans la modalité de désignation des futurs sites, j'ai une slide sur le timing, mais on aura donc une inscription dans ce qu'on appelle le PLFSS, c'est-à-dire la loi de finances pour 2018. Ensuite, des appels à projets régionaux. Le financement sera à la fois sur un financement ONDAM, c'est-à-dire un régime d'autorisation pour le volet accompagnement et puis un régime d'agrément pour le volet logement dans le cadre du BOP 177 pour un budget global sur une année d'1,4 million, c'est-à-dire 14 000 euros par personne et par an, la moitié étant sur le volet accompagnement et l'autre moitié étant sur le volet logement. Alors, Sur la slide que vous voyez là, donc il y a ce qu'on a déjà fait, les rapports intermédiaires, le décret. On a fait un abrégé du rapport qualitatif qui est disponible. Le cahier des charges, vous voyez, qui sera fini normalement en juin. Et puis, vous avez le timing du déploiement. Le temps que les agences régionales aient les circulaires de financement, qu'elles produisent les appels à projets pour les nouveaux sites, on aura des ouvertures de nouveaux sites fin 2018, début 2019. Ce qui laisse le temps de construire sur les territoires tout ce programme. Ce que vous l'avez vu, en fait, l'enjeu, c'est vraiment qu'on puisse mettre tout le monde autour de la table et réfléchir collectivement à ce programme. Voilà. Donc l'objectif d'ici 5 ans, c'est d'avoir 20 dispositifs, donc 2000 personnes qui pourront bénéficier de ces dispositifs. Mais bien évidemment, le chez-soi, ce sont ces nouveaux dispositifs qui vont être créés sous une modalité de copier-coller, je dirais. Et ça, on y tient beaucoup, et d'être fidèle au modèle. Mais en même temps, il y a toute une part qui doit se faire entre-temps, bien sûr, de l'essaimage de toutes les pratiques qui sont jugées positives et de tous les enseignements qu'on a eus. Et c'est déjà des choses qui sont en cours. Enfin, Pauline en a parlé, on le voit. Bon, moi, je trouve qu'il y a quand même eu un saut qualitatif qui a été fait, notamment sur cette idée que voilà, il n'y a pas de caractère prédictif et qu'au fond, il faut essayer et que quand on accompagne les personnes et qu'on met le niveau d'accompagnement nécessaire, ça marche. Il y a tout un contexte favorable autour sur la question du rétablissement. Je vous disais qu'effectivement, le rétablissement était peu développé en France, mais bon, il y a le Conseil national de la santé mentale, le projet territorial de santé mentale dans lequel sera inscrit ce dispositif. Il y a le comité interministériel de lutte contre l'handicap. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font autour. Et donc, on voit bien qu'il y a un mouvement sur ces dimensions de rétablissement et d'empowerment. Et puis enfin, toute une démarche aussi qui existe au niveau international, européenne, avec un guide qui a été créé. Je vous ai mis le site sur le guide. Et ça aussi, c'est vraiment des partenariats qui sont intéressants. Voilà, donc j'ai pas parlé des équipes qui orientaient sur le chez-soi, mais bon, juste un mot sur les équipes de première ligne. On a évidemment des équipes de maraude, des équipes EMPP, mais aussi les équipes du SMPR. Hein, je l'évoque là. On voit bien qu'on est sur des croisements aussi de public. Voilà, donc on peut peut-être ouvrir un temps de questions sur ces enjeux de la pérennisation, en sachant, alors oui, il y a plusieurs questions qui se posent. Voilà. Et peut-être Sylvain Mathieu